Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour de grâce que le Seigneur nous donne. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer une petite balade, voilà, dans plein de choses, je vais vous en parler. La parole de Dieu, le mystère de Dieu est tellement riche, tellement enrichissant, tellement nourrissant, que c'est sans fin, et que nous pouvons, par notre foi contemplative, par notre amour, par notre vie d'amitié avec Dieu, commencer déjà, et oui, la vie éternelle, celle qui ne finira jamais. Alors, plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est, c'est le temps ordinaire. Oh là 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 là. Le temps de Noël est fini, nous avons fêté la fête liturgique du baptême de Jésus au Jourdain. Un passage d'une puissance extraordinaire où la Sainte Trinité s'est manifestée. Pour que nous puissions entendre, que nous puissions voir, pour que nous puissions toucher, et c'est comme dira Saint Jean plus tard, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie, avec un grand V, s'est manifestée, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Alors, il est complètement immergé, Saint Jean. Ben oui, il est complètement immergé. Baptisein, immergé dans la vie de la Sainte Trinité, de sorte que, à l'école de Marie en plus, dans l'Esprit Saint, il se met non seulement à prêcher, à enseigner, mais à écrire. Et alors nous avons son Évangile, nous avons l'Apocalypse, nous avons ses lettres, et c'est d'une puissance extraordinaire parce que sa communion à Saint Jean, elle est avec le Père et avec son Fils dans l'Esprit Saint. Saint Jean, fils de Zébédée, qui était, rappelons-nous, disciple de Jean le Baptiste, au Jourdain, et qui était là. Il était là, il a fait la bascule, le petit Jean de Zébédée, pêcheur de Galilée, sur le lac de Tibériade, près de Capharnaüm, Bethsaïde. Tout ce coin-là, vous voyez, pour ceux et celles qui sont allés en Terre Sainte, magnifique, le lac de Galilée. Et voilà que le petit Jean, qui était disciple de Jean le Baptiste, va être au Jourdain. Il va entendre, il va voir, il va toucher, il va se laisser attirer. Il va s'interroger. Voilà que lui-même va raconter dans son évangile, au chapitre 2, tout ce grand passage de l'attente messianique de tout l'Ancien Testament, de tout le peuple d'Israël. Il attend. Le peuple était en attente, nous dit Saint Luc. Le peuple était en attente. Et voilà qu'il y a un fou, un prophète, l'Élie qui doit venir. Voilà qu'il baptise dans l'eau. Et ce Jean-Baptiste, il a des disciples. Et alors, J'ai vu Jean-Baptiste témoigne en disant: J'ai vu l'esprit descendre, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui, sur Jésus. Il a donc la vision de la colombe. En Saint-Luc, c'est quand Jésus prie. Jésus rentre dans l'eau, glou, 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 il prie, il est en prière, et le ciel s'ouvre. Ah, c'est magnifique. Non, mais il y a des paroles comme ça dans l'évangile qui sont qui ouvrent des fenêtres extraordinaires. Quand Jésus prie, le ciel s'ouvre. Nous, quand on prie, qu'est-ce qui s'ouvre? On ne sait pas prier comme il faut. Nous, quand on prie, notre imagination s'ouvre et alors là, on part. Qu'est-ce que je dois faire dans la journée? Il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie. Ah, mes courses, confiture. Quand Jésus de Nazareth prie, le ciel s'ouvre. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Parce qu'on comprend que notre prière, bien sûr, à nous qui ne savons pas prier comme il faut, heureusement le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse et il nous fait prier en Jésus, parce que Jésus est le seul priant, le seul orant. Alors, en Jésus, oui. Frères et sœurs, est-ce que quand vous priez, vous ouvrez le ciel? Alors, si vous êtes en Jésus, il faut dire oui. Sinon, il faut dire ben non. Car ce n'est qu'en Jésus que le ciel s'ouvre. Alors, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Tout le monde l'a vu. Jean-Baptiste l'a vu. Jean de Zébédée. Ils ont vu la colombe. Ils ont vu Jésus dans l'eau, priant. Ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la colombe et il y a eu une voix. Et moi, je ne le connaissais pas, dit Saint Jean-Baptiste, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. On ne parle que de vision. Je vais arriver au thème de la catéchèse d'aujourd'hui que j'avais prévu, c'est là justement, c'est la vue, c'est le regard. Mais je dois dire que c'est le mystère du baptême du Christ qui m'a donné la clé pour savoir ce que je devais vous raconter. Parce que, frères et sœurs, je vous avoue humblement que je mendie le ciel. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé au Jourdain, c'est extraordinaire. Voir la colombe, l'esprit, sous une forme corporelle, descendre et demeurer sur Jésus, priant, qui ouvre le ciel et qui fait en sorte, du coup, que tous ceux qui sont là voient. Voient quoi? Quelque chose qui était déjà là, bien sûr. Jésus est conçu du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Depuis quand? Depuis sa conception, dans le sein de la Vierge Marie. Ce n'est pas une effusion du Saint-Esprit pour Jésus, pas du tout. Jésus est rempli du Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la gloire de Dieu qui est là, cachée. Elle est où? Elle est dans l'humanité sainte de Jésus. Mais qui peut la voir? Qui peut avoir accès? Alors le Seigneur donne une grâce de théophanie comme ça. Il dit, voilà, regarde-moi, scrute-moi, et puis tu verras, je te donne une grâce. Regarde. Est-ce que tu vois la colombe? Ouais, je vois la colombe. Tu vois la colombe. Alors, garde bien ça dans tes yeux. Et les yeux dans les yeux de ton âme, dans les yeux de ton cœur, garde bien ce que tu as vu, ce que nous avons vu de nos yeux. Alors, il y a la voix du père. Magnifique. Et une voix partie du ciel. Ça part du ciel, la voix. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils qui a toute ma faveur. Il y a les petites nuances d'évangile à d'évangile selon les évangélistes. Mais le plus important, c'est que au cœur de ces nuances, il y a la manifestation du Père qui témoigne que celui-ci est son fils. Extraordinaire. Vous imaginez pour un juif, Adonai Echad, le Seigneur est un. Et voilà que cette unité en Dieu éclos, se manifeste, se révèle en trois personnes. Elles étaient où ces trois personnes? Mais elles étaient là, elles étaient déjà là. Sauf qu'il faut avoir accès à l'amplitude du mystère de Dieu. Comment? Eh bien, il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu nous dise, il faut que Dieu se manifeste, il faut qu'il dise, parce que nous, si vous voulez, on veut bien être d'accord pour dire que Dieu est unique, que Dieu est un, que Dieu est au-delà de tout, que Dieu est le tout autre, qu'il est esprit, qu'il est à la source de tout, qu'il est à la finalité de tout. Ok. Mais quand on a dit ça, on ne peut pas le connaître de l'intérieur. Connaître Dieu de l'intérieur. Connaître l'intériorité de Dieu. Connaître l'intériorité de Dieu. Alors il faut que Dieu ouvre, il faut que le ciel se déchire. Cieux, déchirez-vous, descendez. Et voilà, Jésus prie et le ciel s'ouvre. Ah, voilà, voilà l'attente que nous avions. C'était quoi l'attente? C'était pas la fin d'une épidémie, c'était pas la fin de mesures, machin truc. Non, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle attend que le monde change. Ah oui, c'est ça, bah, tu peux attendre longtemps. Elle attend que tournent les vents. Inexorablement, elle attend, bah oui. Le peuple était en attente. En attente de la réalisation des promesses de Dieu, en attente de l'intervention de Dieu, en attente de... Enfin, est-ce que sur cette terre, on peut vivre en régime de Dieu? Est-ce que enfin, sur cette terre, on peut vivre du royaume des cieux? Est-ce que enfin, sur cette terre, on peut vivre ce pourquoi nous sommes faits? Ce pourquoi nous sommes créés par Dieu? Est-ce que enfin, sur cette terre, on peut arrêter de vivre comme des gens qui voient leur horizon? Mais avec une hauteur de vue très basse. Un plafond, pchou, mon Dieu, ah oui. L'avenir vu d'en bas. Eh bien, il n'y a aucune percée de plafond. Le ciel ne se déchire pas, le ciel ne s'ouvre pas. C'est impossible. L'avenir vu par les croyants. Et les espérants. On va y revenir, je vous assure. Tout ça, c'est l'introduction au regard. Une petite série de catéchèses sur le regard. Mais comment regardes-tu? Ah ben, pour bien voir, il faut que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tes perspectives d'avenir sur ta vie, la vie de ta famille, la vie de ton pays, la vie du monde, eh ben, ça va être de la collapsologie, oui. La théorie de l'effondrement. Ben oui, parce que dans la collapsologie, il n'y a aucune espérance. Aucune espérance. Pourquoi? Parce que ça ne repose que sur des constats humains à vérifier, et puis sur des moyens humains. Mais l'humain, pas encore sauvé par Jésus, si vous voulez, l'humain qui se dit, ouais, on va sauver la planète. C'est bien, si vous voulez. On veut tous vivre avec un environnement potable. Mais Si on oublie que c'est Jésus qui ouvre le ciel, qui fait descendre du ciel la colombe et qui fait entendre la voix du Père. Eh ben, bonne chance et bon courage. Une voix partie du ciel. Ah, c'est trop beau ça. Celui-ci est mon fils, en qui je mets tout mon amour. Celui-ci est mon fils qui a toute ma faveur. Celui-ci est mon fils. Moi aujourd'hui, je t'engendre. Alors, frères et sœurs, en entendant ça, en entendant la voix du Père, le cœur est complètement bousculé et emmené. D'ailleurs, le lendemain, Jean se tenait là, c'est Jean-Baptiste, de nouveau avec deux de ses disciples, regardant Jésus qui passait. C'est encore une histoire de regard, il regarde avec ses yeux. Ah, les yeux de Jean-Baptiste, c'est quelque chose, hein. Regardant Jésus qui passait, il dit, ah, extraordinaire, voici mon cousin. Salut cousin! Ah non, c'est pas ça. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Rappelle-toi quand nous avions passé 3 mois dans le sein maternel chacun. Moi j'étais vers la fin, toi tu venais d'arriver, c'était formidable. Hein? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alors les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Les deux disciples, c'est André et Jean. Jean, fils de Zébédée. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez, venez et vous verrez. Ah, encore une histoire de vue. Tu viens et puis tu verras? Oui. Ils vinrent donc et y virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. De 4 heures l'après-midi, c'est-à-dire 10e heure, c'est l'heure du transpercement du cœur. Alors voilà que ce que provoque Dieu, la manifestation de Dieu, la théophanie, ce que provoque le Seigneur dans nos cœurs à travers ce qu'on voit. Dieu s'est donné à voir en Jésus. C'est magnifique. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Alors, il nous faut réapprendre à bien voir, à bien regarder. Parce que le sens de la vue, si vous voulez, c'est le sens le plus proche de notre imagination, parce qu'il y a une distance. À la différence du toucher, quand on touche quelque chose, on est dans un contact immédiat avec la chose qu'on touche. Dans la vue, il y a une distance. C'est pourquoi que Saint Jean, dans 1 Jean 2, 16, que vous connaissez par cœur, il y a la convoitise des yeux. Parce que les yeux font que je peux convoiter quelque chose qui est un peu à distance de moi, par exemple un bien que je n'ai pas encore. Mais je le regarde des yeux et je salive. Par exemple, quand vous passez devant une pâtisserie entre le repas de midi et le repas du soir. Après une bonne journée, vers 5 heures de l'après-midi, l'heure du petit creux est là. Il y a la vitrine. Vous voyez. Hein. Alors là, il y en a ceux qui résistent. Il y a ceux qui résistent. Oui. Non, 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 je ne mange pas entre les repas. J'ai pris une décision, je reste à ma décision. Puis il y en a qui disent, oh, bon, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais vous voyez que la vision me porte à regarder une réalité qui existe, évidemment, et que je peux désirer ou ne pas désirer que je peux aimer, ne pas aimer. Il y a donc dans le sens de la vue une activité intellectuelle très très intense. Évidemment, beaucoup plus, je ne parle pas que du millefeuille au chocolat, si vous voulez. Je pense à des choses plus importantes. Et le sens de la vue en nous est d'une dignité extraordinaire et proche de l'imagination aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert, mais c'est vrai, figurez-vous, que, en fait, quand vous avez chaud et soif, même quand vous n'êtes pas chaud et pas soif, je veux dire, mais les mirages, vous voyez, c'est assez impressionnant. Vous avez vraiment l'impression que la mer n'est pas loin, où il y a un lac. Je vous assure, il y a un lac là, pas loin. Ben non. Donc, c'est pas que les sens nous trompent, comme disait Descartes, mais tout simplement que notre exercice du sens de la vue, comme l'exercice de nos différents sens d'ailleurs, je parle des sens, vous savez, des sens externes, eh bien, leur exercice se fait avec tout ce qu'on est, et notamment notre intelligence, notre imagination, particulièrement dans le sens de la vue, du regard. Il y a donc, à la lumière de, c'est ce qu'on va voir, à la lumière du Christ rédempteur, un réapprentissage pour nous en ce qui concerne notre manière de voir et de regarder. Regardez, frères et sœurs, c'est le cas de le dire, tous les différents types de regards que nous pouvons avoir. Déjà, ils peuvent être intenses. Ils peuvent être un peu plats, ils peuvent être mystérieux, lumineux. On dira, ouais, il a un regard lumineux. On dira de cette personne qu'elle est lumineuse. Pourquoi? Parce que son regard est lumineux, son regard est clair. Ou bien on dira qu'il est noir, regard noir. On dira, nonchalant. Ah, il a un regard coupable, il baisse, il regarde ses. Ah, tiens, il baisse, il me regarde pas en face, il regarde ses chaussures. Donc, regarde-moi en face quand tu me dis quelque chose. Vous, parents, si vous êtes parents, vous connaissez tous vos enfants. Quand ils vous mentent, normalement, ils ne vous regardent pas trop en face, hein. Voilà, ils regardent un peu à côté, ou carrément en bas, ou en haut. Enfin, chacun choisit sa zone, mais ce n'est pas très en face, hein. Il y a donc un lien entre les yeux et la vérité. Ah, eh oui. Parce que quand on ment, sauf si on est menteur professionnel, ou si on est habitué au mensonge, si on est rentré dans le vice du mensonge, ben, il y a des gens qui mentent très très bien en regardant en face, si vous voulez. Mais ça, c'est tordu. Voilà. C'est de l'ordre du vice. Mais sinon, si on voit bien que, à travers nos yeux, les yeux expriment quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. C'est vrai que le regard est une fenêtre de l'âme. Alors bien sûr, ce regard qui est expressif d'une intériorité, on voit plein de choses en ce moment. Je vois, il y a un immeuble en face, il y a des lauriers qui ne sont pas en fleurs, ils sont taillés. Je peux voir plein de choses et ça me fait un peu ni chaud ni froid, si vous voulez. Mais je peux voir et regarder, expérimenter des choses dans ma vue qui viennent me toucher plus profondément, bien sûr. Il y a donc différents crans, différents degrés de profondeur lorsque nous parlons du regard, de la vue. Notons, avant de passer dans la Bible, qu'il y a un lien entre le regard et le sourire. Oui. Parce que les traits du cœur façonnent le visage, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire que ce que nous vivons à l'intérieur de nous, eh bien, ça sort à travers notre corps. Nous sommes âme et corps, nous sommes corps. Notre corps n'est pas un avoir, mais est de l'ordre de l'être. Et donc, ce que nous vivons dedans, de nous, dans notre âme au niveau sensible, au niveau spirituel, eh bien, Bien sûr, notre corps y participe complètement. Il y a donc, à moins encore une fois, qu'on dissimule nos sentiments, comme on dit, qu'on dissimule volontairement ce qu'on veut, ce qu'on vit, ce qu'on veut transmettre et transparaître. Il y a normalement un lien, bien sûr. Et donc il y a le sourire. C'est beau parce que c'est le visage. Le visage est un lieu où il y a non seulement les oreilles, il y a la bouche, le menton, les sourcils, mais il y a les yeux et le sourire. Le sourire, c'est expressif aussi. Et on peut froncer les sourcils et ne pas sourire, montrer un regard de colère, et du coup, le visage prend une forme qui s'exprime non seulement à travers les yeux, mais à travers aussi l'inverse du sourire. Mais si l'âme est dans l'amour, alors le regard, un regard aimant, eh bien, provoque un sourire. Notre-Dame du sourire. J'aime beaucoup personnellement, pour ceux et celles qui connaissent, le Christ qui est dans l'abbaye de Lérins, en face de Cannes, dans le sud de la France. Le Christ au sourire, il est victorieux, il est amour, et l'artiste a montré ça, voilà. Un sourire. C'est bien vu. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de toutes les vierges qui sourient, parce que de fait, Marie nous sourit. Ouais. En ce moment, oui. Pourquoi? Parce qu'elle nous aime. Et lorsqu'on aime, on sourit. Alors, l'impact du regard. Regardons un petit peu maintenant, voyons un petit peu. Dans la Bible, comment la Bible parle du regard, de la vue. Comme la Bible est expressive de toutes les expériences humaines aussi, nous voyons tout ce que je vous ai dit, eh bien, se trouve dans la Bible aussi. Parce que la Bible est expressive non seulement de la relation dans l'alliance entre Dieu et l'homme, Dieu et son peuple, mais cette alliance vient visiter tout le tissu de nos relations humaines et de notre vie ici-bas. Il y a donc dans la Bible plein, 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 plein d'expressions, de moments qui nous parlent du regard, de la vue, etc. Il y a le regard orgueilleux, regard hautain n'est que péché, dit Proverbe. Seigneur, ne me donne point un regard altier, c'est Racine. L'impact de l'orgueil sur le regard, oui, bien vu. Il y a, comme je vous ai dit, le regard entre un homme et une femme, par exemple. Tu me ravis le cœur par un seul regard. Cantique des cantiques. Ah oui. Entre un homme et une femme. Mais attention, n'arrête point tes regards sur une jeune femme, dit Siracide 9.5. L'inconduite de la femme se décèle à son regard. Ah. N'arrête tes regards sur la beauté d'aucune personne. Ah. Repris par Jésus lui-même en Matthieu 5, 28, qui parle Dieu de jeter un regard de convoitise sur une femme. Celui qui regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère avec lui, avec elle, pardon. C'est passé par quoi? Ben, c'est passé par le regard. Il y a donc dans le regard, convoitise des yeux, une possibilité d'amener à la chute. La chute, le péché, est d'ordre spirituel, toujours. Mais on peut pécher par les yeux. La convoitise des yeux. Regarder une femme et la convoiter. Eh bien, c'est commettre déjà dans son cœur, dit Jésus, l'adultère avec elle. L'adultère n'est pas que avoir une relation sexuelle hors mariage, et, je veux dire concrète. C'est dans le cœur déjà. Par le regard. Il y a donc dans la Bible toutes ces expériences humaines qui sont relues à l'aune aussi du regard de Dieu. Car dans la Bible, Dieu voit. Mais alors, Dieu a des yeux? Ne tombons pas dans l'anthropomorphisme. C'est-à-dire de donner à Dieu des yeux, des mains, une bouche, des pieds, des sentiments humains, de plaquer sur Dieu des choses qui ne sont qu'humaines d'un autre ordre que celui du divin. Anthropomorphisme. Sauf que, bien sûr, Dieu est esprit. Dieu n'a pas d'organe du sens de la vue, n'a pas d'œil. Bien sûr. Et pourtant, la Bible ne cesse de nous parler que de ce Dieu qui voit et qui regarde. Première page de la Bible, premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu crée et devant sa création, Dieu voit que c'est bon. Dès le deuxième jour de la création, jusqu'au sixième, après avoir créé l'homme et la femme, il voit non seulement que cela était bon, mais que cela était très bon. Il est content, Dieu. Alors, Dieu est heureux. La Sainte Trinité est heureuse de tout temps. Et la Sainte Trinité est le bonheur et la béatitude en elle-même. Mais voilà que Dieu créant, il voit sa création et il trouve que c'est très bon tout ça. Car tout ce qui vient de lui, bien sûr, n'est que l'expressif de sa volonté et de sa parole bienfaisante, de sa parole créatrice, de sa bonté, de son amour, de sa sagesse. Et puis, il y a au sommet de cette création, il y a l'homme et la femme. Et Dieu voit que c'est très bon. Et il va inviter l'homme et la femme à entrer dans son regard. Tu vois, Adam et Ève, vous voyez, regardez ce que j'ai fait. Regardez cette création merveilleuse. Et regardez-vous vous-même. Rappelons-nous que, quand même, le premier chant, le premier Magnificat de l'histoire de notre humanité, c'est Adam qui chante. Et vraisemblablement, c'est à la vue de la femme que Ish, l'homme masculin, s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Isha. Avant de nommer la femme, il la voit. Cette femme qui vient de lui, de Dieu, bien sûr, pétrie par Dieu, créée par Dieu, mais de l'os de son cœur, de son intériorité. Parce qu'il avait cherché Adam. Il était contemplatif de l'œuvre de Dieu. Regardez, regarde et vois, regarde, regarde. Mais dans tout ce qu'il voyait, dans tout ce qu'il avait nommé, Il n'avait pas trouvé d'aide. Alors, il a fallu que le Seigneur fasse cette opération chirurgicale extraordinaire. Et que de cette torpeur, l'homme qui s'endormit, le Seigneur prenne une de ses côtes, referma la chair à sa place, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Premier regard de l'homme, c'est sur son créateur, je vais y revenir, sur son Dieu, sur la création. La création sans la femme, et puis la création ultime de celle qui sera la clé de voûte de toute la création, Ève. Réaction? Os de mes os, chair de ma chair. Magnifique. Réaction de celui qui nomme toute chose, mais après l'avoir vue. C'est très beau de revenir à l'origine de la pureté du regard, parce que le péché va faire en sorte que la convoitise va pousser Ève vers Adam, la convoitise sous forme de domination va pousser Adam vers Ève, mais avant ça, il n'y avait pas de convoitise, il n'y avait pas de désordre. Tout était vécu dans la divine volonté. Il y a donc quelque chose à retrouver. Et ça passe par le regard. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, dit le psaume 32. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre leurs actions. Dieu voit, il regarde. Il n'a pas des yeux comme nous, bien sûr, mais il a un regard. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Il faut dire que tout en n'entrant pas dans l'anthropomorphisme, Dieu voit. Comment ça se fait? C'est normal parce que Dieu est lumière. Et qu'il y a un lien, déjà au niveau sensible, entre ce qu'on voit et la lumière. L'objet du sens de la vue, c'est la lumière, qui se réfracte à travers les couleurs. Mais l'objet sensible de la vue, du sens externe de la vue, c'est la lumière. Nous sommes faits pour la lumière. Comment ça se fait? Ben oui, parce que à travers le sens de la vue, on est fait pour voir Dieu. Alors le sens de la vision béatifique, c'est un peu différent, mais c'est une connaissance lumineuse dans la lumière. Nous sommes faits pour la lumière. Jésus se manifestera et se révélera comme la lumière du monde, et il dira à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il donnera aussi un enseignement sur l'œil, nous y reviendrons, qui est la lampe du corps. Voilà, frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons poursuivre et approfondir cette réalité si belle, si profonde, si abîmée, il faut le dire, mais en même temps si rédemptée. Nous avons été rachetés. Et le Rédempteur, Jésus, qui voit clair, nous donne part à sa clarté et à son regard. Alors, on va se régaler. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.